parole de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui ont hâte de recevoir la parole de Dieu? Amen. Donc, on va faire quelque chose que nous aimons faire ici à la vie comblée. Et c'est une bonne déclaration de la parole de Dieu. Parce que la Bible nous enseigne que ce qu'on dit avec la bouche, en croyant du cœur, que ça s'accomplit. Amen. Donc, on va déclarer quelque chose, parce que ce n'est pas juste un sermon qu'on veut entendre, on veut vraiment recevoir la parole de Dieu ce matin. Donc, si vous avez une Bible avec vous, je vous invite à la prendre dans vos mains. Si non, il y a une feuille que vous avez reçue à la porte, on va dire ceci. Voici ma Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil, mais je serai changé et transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen. Amen. Donc, vous savez que la semaine passée, on a commencé une petite série, je ne sais pas exactement combien de semaines ça va durer, mais on a commencé à parler d'une stratégie pour une vie réussie. Et on sait une chose, c'est que le Seigneur veut qu'on ait du succès dans notre vie. Il veut que notre vie soit réussie. C'est pas le plan de Dieu pour vous d'échouer ou d'avoir juste des échecs. C'est pas le plan de Dieu pour vous d'être vaincu, mais d'être plus que vainqueur. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient vraiment vaincre dans la vie? Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient vraiment réussir tous les domaines de leur vie? C'est ça notre désir, c'est ça que Dieu veut. En fait, je suis convaincu que Dieu veut que nous ayons du succès plus que nous voulons réussir. Avez-vous entendu cela? Dieu le veut plus que nous. Comment est-ce que je le sais? Parce qu'il a payé plus cher. Moi, je sais qu'il y a des gens ici qui ont payé cher pour réussir dans certains domaines de leur vie, mais je suis quand même convaincu qu'il n'y a personne ici qui a payé plus cher que qu'est-ce que Jésus a payé pour votre succès. En fait, il a versé son sang. Il a goûté à l'enfer pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est déjà allé à l'enfer pour réussir? Non. Mais savez-vous quoi? Vous avez pensé passer par l'enfer des fois. Vous étiez sûr et certain. J'entends souvent des gens dire que, oh, qu'est-ce qu'on vit ici sur la terre? Je ne crois pas à l'enfer littéral. Ce qu'on vit actuellement, c'est l'enfer. Mais ils ne savent rien. Ça, c'est rien comparé à le vrai enfer. Mais Jésus a goûté véritablement à l'enfer. N'est-ce pas vrai? Pour nous donner du succès. Pas juste du succès naturel, mais pour qu'on puisse être plus que vainqueur dans tous les domaines de notre vie, esprit, âme et corps. Et je crois que si Jésus a payé si cher, ça vaut la peine de regarder dans la parole de Dieu et de découvrir les principes et les promesses qui sont dans la Bible, qui sont là pour nous aider à mener une vie victorieuse. Dieu veut que vous soyez pas juste vainqueur, mais plus que vainqueur. Dieu veut que vous soyez un succès dans votre vie. Regarde quelqu'un a dit, Dieu veut que vous soyez un succès. Amen. Et il y avait un passage qu'on a lu la semaine passée, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. C'est un passage qui est pas long, mais qui est plein à craquer, plein de vérité. Ça déborde de vérité. Ça déborde des paroles encourageantes. Et une exhortation qui est à la fois terre à terre et à la fois inspirante. Et on va voir cela. On va lire encore une fois aujourd'hui le verset clé, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. Et je pense que dans ce petit vraiment verset qui n'est pas long, on va découvrir les principes qui sont destinés à nous donner une réussite dans notre vie. Verset 13, 1 Corinthiens 16. Dit ceci, veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, et que tout ce que vous faites se fasse avec amour. On va le dire ensemble, veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Savez-vous que juste ça, si chaque chrétien pourrait mettre ces petites instructions vraiment en pratique dans leur vie chrétienne, je suis convaincu que nous allons tous réussir dans notre vie. Parce que c'est pas long, mais c'est fort, c'est puissant. La semaine passée, on a parlé du premier mot, veiller. Et on a dit que combien c'est important pour nous de se réveiller premièrement et de veiller sur soi-même, de veiller sur notre ennemi, etc. On a parlé de tout cela. Si vous n'êtes pas là, je vous encourage à aller sur le site web et d'écouter le message ou télécharger le message et ça va être une source de bénédiction pour vous. Mais ce matin, on veut aller plus loin. On va regarder la deuxième partie de cette exhortation. Après le mot veiller, on voit une petite exhortation: demeurez ferme dans la foi. Et on sait qu'on ne peut pas avoir du succès dans la vie chrétienne si on ne veille pas, mais on ne peut pas avoir le succès dans la vie chrétienne si on ne demeure pas ferme dans la foi non plus. Demeurez ferme. Regarde quelqu'un a dit, demeurez ferme dans la foi. Alléluia. Et on voit, ça va de pair avec ce qu'on a vu la semaine passée. Et juste pour souligner cela, on a 1 Pierre chapitre 5, 8 qui dit, « Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Mais c'est quoi la prochaine chose? « Résistez-lui avec une foi ferme. » Savez-vous que l'adjectif « ferme » n'est pas là par hasard? Parce qu'il y a plusieurs genre de foi qu'on peut avoir. Et là, la Bible dit que le genre de foi qui va marcher contre le diable, c'est la foi qui est ferme. Il ne faut pas avoir une foi qui est molle. Il ne faut pas avoir une foi qui est faible. Il ne faut pas avoir une foi qui est comme ci, comme ça. La parole de Dieu dit, il faut résister le diable avec une foi ferme. Et dans le verset qu'on a lu au début, Paul dit, demeurez dans la foi ferme. Donc, on voit quelque chose d'intéressant. Que ça se peut qu'on peut commencer dans une foi ferme et terminer dans une foi faible. Et ici, on voit une exhortation, demeurez dans la foi ferme. Donc, s'il y a des gens ici qui ont eu la foi dans le passé, c'est bon, mais c'est pas assez. Et aujourd'hui, le Seigneur veut encore stimuler notre foi, stimuler aussi notre désir d'aller de l'avant, notre désir de réussir. Comme la semaine passée, on parlait de l'importance de veiller sur soi-même et de veiller sur les stratégies de l'ennemi, etc. Mais aujourd'hui, on va parler de comment demeurer dans une foi qui est ferme, solide, qui est forte et qui est capable de résister le diable et, en fait, de saisir toutes les promesses et les bénédictions de Dieu. Vous savez qu'en Hébreux chapitre 11, verset 6, nous voyons l'importance de la foi. La parole de Dieu dit, « Or, sans la foi, il est quoi? » Sans la foi, il est impossible de quoi? De lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, c'est ça. Si je vais réussir dans la vie, il faut... Ça, c'est la base de tout. Si je n'ai pas une foi ferme, je ne vais pas pouvoir résister le diable. Mais en plus, je ne serai même pas capable d'être agréable à Dieu. Je ne serai pas capable de saisir ses bénédictions ou de recevoir ses promesses. Et ce n'est pas ça que je veux. Je veux réussir. Je veux avoir du succès. Et vous? Alléluia. Donc, on voit, hein? Encore, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe. Il y a beaucoup de gens à Drummondville qui croient que Dieu existe, mais ils ne savent pas c'est qui. Et ils ne savent pas qu'il est un rémunérateur. Il y en a beaucoup qui croient que Dieu est même fâché avec eux. Il y en a beaucoup qui croient que c'est Dieu qui envoie la maladie, les problèmes et les difficultés pour nous enseigner les choses. Ils ne croient pas que Dieu est un rémunérateur. Il récompense ses enfants. N'est-ce pas bon de savoir que vous avez un Père au ciel qui vous aime et qui veut vous récompenser? C'est là la réussite. C'est là où se trouve le succès. Encore, si vous savez que Dieu est un rémunérateur et qu'il va vous récompenser, ça va bénir tous les domaines de votre vie. Savez-vous qu'il veut réussir, hein, votre vie spirituelle? Il veut réussir votre vie physique, Si vous êtes malade et fatigué, vous avez les faiblesses dans votre corps, savez-vous que Dieu veut, et il veut que vous soyez guéri? Savez-vous que si vous avez de la difficulté dans les finances, de la difficulté à payer les factures, et savez-vous que Dieu veut que vous ayez de quoi satisfaire tous vos besoins? C'est son désir, c'est son plan. Mais la foi est convaincue, pas juste que Dieu existe, mais la foi est convaincue qu'il est un rémunérateur. Dieu est bon, et tout bon, parfait, tout bon, excellent. On chantait aujourd'hui, n'est-ce pas? Tout bon, parfait, tout bon, excellent, il vient de qui? Ça vient de Dieu, ça vient d'en haut, n'est-ce pas? Donc, sachez que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. On voit dans la parole de Dieu les exemples de Jésus. À combien de fois est-ce qu'il a dit les choses comme « Fille ou femme, ta foi t'a guéri. Hein? Qu'il te soit fait selon ta foi. Tout est possible à celui qui croit. » Donc, on voit l'importance de la foi. Si on veut vraiment réussir, on ne peut pas réussir sur nos propres mérites. On ne peut pas réussir juste avec notre propre intelligence ou nos propres habiletés. Il faut absolument avoir la foi en Dieu. C'est notre victoire. La Bible dit, voici, c'est quoi qui triomphe du monde? C'est notre foi. Notre foi triomphe du monde. Donc, il y a un autre verset en Hébreux 11, verset 1, qui nous donne un peu la définition de la foi. Et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme, quoi? Confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le, quoi, posséder. Donc, j'aimerais que vous souligniez le mot confiance. Soulignez encore le mot posséder. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité. Tu peux souligner le mot réalité de ce qu'on ne voit pas. Donc, c'est quoi la foi? La Bible dit encore, on a vu, veillez, demeurez ferme dans la foi. Demeurez ferme dans la foi. Demeurez ferme dans quoi? Demeurez ferme dans votre confiance en ce que vous espérez. La confiance en ce que j'espère. Savez-vous, il y a beaucoup de gens qui ont confondu la foi et l'espérance. L'espérance, c'est quoi? L'espérance, c'est une vision d'un futur préféré. Quelqu'un qui est malade, qui a mal dans son corps, il espère un jour être guéri. Il espère qu'un jour la douleur va quitter son corps. Il espère qu'un jour il sera restauré, les fonctions de ses membres vont être restaurées et qu'il n'aura plus de maladie dans son corps. Il peut avoir cette image dans sa pensée qu'un jour, quelqu'un qui ne marche pas, je vais marcher un jour. Ça, c'est l'espérance, n'est-ce pas? Quelqu'un peut avoir l'espérance d'avoir ses besoins rencontrés financièrement. Quelqu'un qui est dans la misère, qui ne peut pas payer les factures, qui a de la difficulté à nourrir les enfants, il peut espérer avoir de quoi satisfaire à ses besoins avec un superflu. Donc, il peut avoir cette image, c'est comme un rêve, c'est comme une vision, c'est comme vraiment un songe d'un jour avoir assez des moyens pour prendre soin de sa famille et aider les autres. Mais c'est comme une vision. Ça, c'est une espérance. Mais ce n'est pas la foi. Est-ce que vous me suivez? Combien de vous aimeriez avoir une nouvelle auto? Hein? Est-ce que quelqu'un qui aimerait avoir une nouvelle auto un jour? Ah oui, bien. Les autres, vous n'avez pas levé votre main, désolé, mais il y en avait. Non. Quelqu'un qui a offert une auto à tout le monde? Non. Vous savez quoi? On peut avoir une espérance, avoir une auto. On peut espérer un jour faire quelque chose de grand, nous recevoir quelque chose de bien. Mais l'espérance n'est pas la foi. L'espérance, c'est tout simplement la vision de quelque chose, d'un futur préféré. Qu'est-ce que j'aimerais avoir dans le futur? Mais la foi, c'est une ferme, tout le monde dit ferme, confiance en ce qu'on espère. C'est une manière de le quoi? Posséder déjà à l'avance. C'est-à-dire que quand on arrive à la foi, c'est pas juste une espérance, c'est « je l'ai déjà ». Jésus l'a dit, tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu déjà, et vous le verrez s'accomplir. C'est déjà à vous. Vous l'avez déjà reçu. Est-ce que vous le voyez aujourd'hui? Non. Mais c'est comme vous, et encore, j'aime cet exemple. Il y a des gens qui ont commandé des choses par Internet. Il y a quelqu'un qui a commandé un livre, Amazon.ca ou quelque chose comme ça? Levez la main. Est-ce que quelqu'un qui a déjà commandé quelque chose par téléphone ou acheté quelque chose comme ça? Savez-vous qu'est-ce qui se passe? Ils vont demander votre numéro de carte de crédit ou quelque chose et vous allez acheter un livre et puis ils vous envoient un accusé de réception tout de suite. Merci de votre commande. Ils vous envoient même un reçu. Et votre nom est sur le reçu. Vous êtes propriétaire du livre. Le livre est dans un entrepôt quelque part. Et un employé a besoin de prendre le livre, l'emballer, le mettre dans la poste, et ça peut prendre entre 2 jours, ou 4 jours, ou 7 jours, ou 1 semaine, ou on ne sait pas combien de temps ça peut prendre, mais vous êtes propriétaire du livre, et vous pouvez même dire à votre épouse, « Hey, j'ai acheté un livre aujourd'hui. » Et vous pouvez donner le titre. « J'ai acheté une nouvelle Bible. » Ah oui, laisse-moi voir. Je peux pas te le montrer là. Oui, pourquoi pas? Parce que c'est pas encore arrivé, mais c'est à moi. Savez-vous que la foi agit de la même façon? Dieu nous donne une promesse, on croit la promesse, on commande la promesse, on remercie le Seigneur pour la promesse et on continue à le remercier jusqu'au jour qu'on le voit manifester. Mais le problème encore, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la différence. Et c'est pourquoi il y a un temps de prière pour ceux qui sont malades. Et ils viennent en avant. Quelqu'un qui a un problème dans son corps physique. Et on prie pour la personne. La personne espère être guérie. Et quand il reçoit l'imposition des mains, et on prie pour la personne espère, il voit, il a une vision d'un futur préféré. Mais la personne ne passe pas l'autre étape. D'être convaincu. Encore, la foi est une ferme confiance en ce qu'on espère. C'est une manière de la posséder déjà en avance. C'est quoi? Être convaincu, absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que si j'ai des sentiments, tant mieux. Si j'ai pas de sentiments, tant pis. Dieu l'a dit, j'y crois, c'est fait, je l'ai, je suis guéri par les meurtres de Jésus. Amen? Ça, c'est la foi. Et comme pour votre salut, combien de vous avez déjà vu le ciel? Hein? Avez-vous vu vraiment, je dis, le paradis, hein, la ville céleste? Combien de vous avez déjà vraiment, littéralement, physiquement vu la ville céleste? Est-ce qu'il y en a? Non? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà vu la totalité de votre héritage qui est réservé pour vous au ciel? Non? Mais savez-vous quoi? Selon la parole de Dieu, vous êtes déjà héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Votre nom est déjà écrit dans le livre céleste. Et en fait, il y a un héritage qui est réservé pour vous au ciel, selon l'apôtre Pierre, n'est-ce pas? Vous êtes gardé par la puissance de Dieu et un jour, vous allez voir la totalité, la plénitude de votre héritage céleste. C'est à vous déjà. Moi, je suis déjà sauvé. Je ne serai pas sauvé une fois rendu au ciel. Je suis déjà sauvé. Je suis déjà citoyen du ciel. Aujourd'hui même, ça c'est la foi. J'ai la ferme confiance. J'ai déjà possédé en avance mon salut. Et je suis absolument certain de la réalité de ce que je ne vois pas. Je suis certain que la vie céleste est aussi réelle que qu'est-ce qu'on a ici. C'est encore plus réel parce que c'est éternel. Amen. Ça, c'est la foi. Mais ce principe de la foi s'applique à tous les domaines de votre vie. Et c'est pourquoi Paul a dit, demeurez ferme dans la foi. Regardons, il y a quelques autres versets qu'on va voir aujourd'hui. Plusieurs choses qu'on veut souligner. 3 points, en fait, que je veux souligner avant de vous donner le OMC, le oui, mais comment est-ce qu'on peut faire cela? Comment est-ce qu'on peut rester ferme dans la foi? Première chose que je veux que vous sachiez, c'est que votre foi peut être mesurée. Savez-vous que votre foi peut être mesurée? La Bible dit en Romains 12, 3, revêtir des sentiments modestes selon la, quoi? Mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Quand vous avez été sauvés, la Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et ça, c'est pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, la foi Et la mesure de la foi que vous avez reçue quand vous avez donné votre vie à Seigneur Jésus-Christ, c'était un don que vous n'avez pas mérité. Personne ne peut se vanter. Regarde-moi, je suis un grand homme de foi. Il y en a qui essaient de se vanter. Et des fois, on va même mettre les autres sur un pédestal comme si, oh, regarde-eux, ils ont une grande foi. Mais la foi que nous avons, c'est le don de Dieu. Est-ce qu'on peut se vanter pour un don? Non. Est-ce que vous êtes là ce matin? Votre foi peut être mesurée. Matthieu 14, 31 dit, aussitôt Jésus entendit la main, le saisit et lui dit. Et là, ça c'est le récit de Pierre qui marche sur les eaux. Okay? Pierre est en train de marcher sur les eaux, mais tout d'un coup, il regarde les vagues et le vent, et il commence à couler, et Jésus, aussitôt, étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de quoi? Peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Donc là, on voit un homme qui avait la foi, mais selon Jésus, il avait peu de foi. Ouh, mais il marchait sur les eaux quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire avec peu de foi? On peut marcher sur les eaux. Hein? Mais c'est sûr qu'on peut commencer à couler aussi. C'est pourquoi on ne peut pas rester avec peu de foi. C'est bon, c'est un bon début. Mais comme on va voir, on ne peut pas rester avec peu de foi. Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Là, il parle du centenier qui est venu à voir Jésus. En fait, il n'est pas allé lui-même, il a envoyé un serviteur, parce qu'il avait un autre serviteur qui était paralysé, tourmenté, en beaucoup de douleur chez lui. Et il envoie quelqu'un pour voir Jésus, et Jésus était prêt à aller le guérir. Jésus a dit, j'irai, je vais le guérir. Et le centenier a dit, non, je ne suis pas digne que tu viennes sur mon toit. Mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Cet homme avait confiance, il avait une ferme confiance, il savait que juste cette parole, c'était une manière par laquelle il pourrait posséder la promesse de Dieu en avance, et il était absolument certain à la réalité, de la réalité de ceux qui ne voyaient pas. Même pas besoin de voir Jésus dans la chair, même pas besoin de voir Jésus entrer et franchir le seuil de la porte de ma maison. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de savoir que sa parole a été déclarée, et sur la parole de Dieu, j'y crois. Savez-vous quoi? Ça, c'est la foi. Et on a tout simplement besoin de voir ce que Dieu dit dans sa parole. Ça doit suffire. Avez-vous besoin d'un signe spécial? Avez-vous besoin que quelque chose arrive de spectaculaire avant de croire? Non, vous avez juste besoin de la parole de Dieu. Et si Dieu l'a dit, il est ainsi. Amen, alléluia. Mais votre foi peut être mesurée. Donc là, on voit des personnes. Il y a un autre passage, je ne l'ai pas mis dans vos notes, qui dit que tous n'ont pas la foi. Donc il y a des gens qui n'ont pas de foi, il y a d'autres qui ont peu de foi, et il y a un autre groupe de personnes qui ont une grande foi. Pas de foi, peu de foi, grande foi. On peut mesurer la foi. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez? Pas de foi, peu de foi ou grande foi? Une autre chose qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de la foi, la confiance, on peut avoir confiance en Dieu dans un domaine et pas avoir confiance dans un autre domaine. C'est la même chose dans le naturel, n'est-ce pas? Est-ce que je crois qu'il y a des personnes ici qui ont confiance en moi? Si vous avez besoin d'un lift pour aller chez vous après la réunion d'aujourd'hui, vous pourrez me faire confiance de vous conduire. Parce que même hier, j'ai pris mon fils Zachary à un tournoi de basket à Longueuil et j'avais ma camionnette pleine d'autres joueurs. Ils m'ont fait confiance, ils avaient la foi que j'étais capable, même en retour, j'avais le coach avec moi. Donc, écoute, ils m'ont fait confiance pour les conduire. Ils avaient foi dans ma capacité de conduire. C'est pas tout le monde qui aurait foi en ça, mais ceux qui me connaissent bien, non, je plaisante. Mais, laisse-moi venir une autre chose. Si j'avais besoin de faire un voyage en avion avec les mêmes personnes, est-ce qu'ils me feraient confiance pour piloter l'avion? Hein? Ok, on va faire un voyage, on va prendre l'équipe et on va faire un tournoi je ne sais pas, en Louisiane. Et bon, c'est moi qui va piloter l'avion. Je ne pense pas qu'ils vont embarquer. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir confiance en moi dans un domaine et pas confiance dans un autre domaine, parce que je suis digne de confiance dans un domaine et pas digne de confiance dans un autre domaine. OK? Ou, mais dans, parce que je ne suis pas Dieu. Voici l'affaire. On pourrait avoir un pilote d'avion, mais si on ne sait pas qu'il est pilote d'avion, on ne ferait pas confiance, parce qu'on n'a pas cette connaissance. Vous savez? Hein? On peut être dans une situation où quelqu'un commence à avoir une urgence médicale et on ne sait pas, mais il y a quelqu'un avec qui on était dans une groupe de personnes qui se lève et dit, mais moi, je suis un médecin. Je suis médecin, je peux l'aider. OK, bon, on va lui faire confiance. Mais avant qu'il dise, je suis médecin, est-ce qu'on va le laisser opérer? Non. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Savez-vous que la foi dépend de votre connaissance de Dieu. Si vous savez que Dieu a donné son Fils pour votre salut éternel, vous allez lui faire confiance pour votre salut éternel. Mais si vous ne savez pas que par les meurtres de Jésus, vous avez été guéri, vous allez faire confiance à Dieu pour votre salut, mais pas pour votre guérison. Si vous ne savez pas que Dieu a fait des promesses pour votre provision financière, vous n'allez pas lui faire confiance dans ces domaines. Et qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on peut avoir une grande foi. Je connais des chrétiens qui ont une grande foi pour le salut. Ils savent qu'ils sont enfants de Dieu. Ils savent qu'ils vont passer l'éternité au ciel. Et personne ne peut les ébranler. Ils ont une grande foi ferme. Mais quand ça vient à la santé pour le corps, ils sont plus faibles. Moi, je sais, hein, moi, j'ai eu des domaines dans ma vie où je peux regarder. Sondez votre cœur maintenant. Juste prenez quelques petites secondes. Est-ce qu'il y a des domaines où vous faites vraiment confiance en Dieu, vous avez une grande foi, et d'autres où peut-être vous n'avez pas de foi du tout, ou une faible petite foi? C'est vrai, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est d'examiner ces domaines et de faire quelque chose pour faire grandir notre foi. En fait, ça, c'est le troisième. Deuxième grande ligne ici, on a dit premièrement que votre foi peut être mesurée. Deuxième chose qu'on veut souligner, c'est que votre foi peut être augmentée. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Votre foi peut être mesurée et augmentée. Parce que des fois, ça peut être décourageant. On fait le sondage, on fait le bilan spirituel, on se regarde, on dit, pour être honnête, j'ai pas vraiment la foi, j'ai pas vraiment confiance en Dieu pour la guérison, d'exemple. Où j'ai pas vraiment confiance en Dieu pour qu'il va prendre soin de moi ou qu'il va prendre soin de mes enfants. J'ai un problème avec l'inquiétude. Je suis inquiet pour mes enfants, pour ceci. Ou j'ai la peur, ou je crains certaines choses. J'ai pas la foi ou peu de foi. Des fois, ça peut être décourageant, mais ça doit pas être décourageant parce que la foi peut être augmentée. Regarde quelqu'un d'autre que vous n'avez pas vu à date et dit, votre foi peut être augmentée. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. 2 Corinthiens 10, 15 dit, mais c'est avec l'espérance si votre foi, quoi? Augmente, de grandir encore davantage parmi vous. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 3 dit, nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands, votre foi fait de grands progrès. Ça, c'est une bonne nouvelle. Personne est condamné à passer une vie avec une petite foi faible. N'importe qui peut avoir une grande foi. N'importe qui. Il y a des gens ici que je sais, dans mon cœur, il y en a ici qui sont convaincus que, oui, tu sais quoi, moi, j'ai juste pas la foi comme ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous n'avez pas la foi ou peu de foi, vous pouvez faire des choses pour faire augmenter votre foi. Et votre foi peut faire du progrès. Mais voici une autre chose qu'on va souligner avant d'arriver à oui, mais comment? Votre foi doit être aussi protégée. Votre foi doit être protégée. La Bible dit, on a lu notre texte, veillez, demeurez ferme dans la foi. C'est-à-dire qu'on peut être ferme un jour et pas faire une autre journée de la vie. On n'a pas une promesse ou une garantie qu'on va automatiquement, toujours en tout cas et en tout temps, avoir une grande foi, même si on avait une grande foi dans le passé. Et sûrement, si on demanderait, on poserait la question, je suis convaincu que ce matin, je pourrais trouver au moins 2, 3, 4 personnes qui pourraient témoigner comment, il y a quelques ans, ils avaient vraiment une grande foi dans certains domaines. Mais que, honnêtement, si je suis honnête aujourd'hui, ma foi a commencé à diminuer. J'ai plus la même confiance dans ce domaine que j'avais avant. Pourquoi? Des fois, c'est à cause de certaines déceptions qu'ils ont vécues. Des choses qu'ils n'ont pas compris ou des choses qui ont été négligées. Mais on va voir que notre foi doit être protégée. Regarde, trouve une autre personne qui dit, il faut protéger ta foi. Alléluia. Donc, votre foi peut être mesurée, augmentée, mais elle doit être aussi protégée. En Timothée 4, 1, regardons ce verset. « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns, c'est quoi le mot qui est là? Abandonneront la foi. » Donc, pourquoi est-ce qu'on doit protéger la foi? Parce que sinon, il y a des gens qui vont l'abandonner. On peut prendre, quand on abandonne quelque chose, c'est un acte volontaire. N'est-ce pas? Si c'est abandonné, c'est volontaire. Je prends une décision de quitter un lieu, j'abandonne un loyer, j'abandonne une relation, j'abandonne un principe, j'abandonne une conviction. Il y a certaines convictions qui doivent être abandonnées. Mais quand on parle des convictions de Dieu, il faut demeurer ferme. Tout le monde dit demeurer ferme. Et on voit que dans les derniers temps, beaucoup de gens qui vont abandonner la foi. Et c'est pourquoi il faut protéger la foi. Il faut demeurer ferme. Connaissez-vous des gens qui ont abandonné leur foi? Des fois, on abandonne la foi totalement et des gens disent, je ne crois plus en Dieu. Je ne suis plus chrétien. J'ai carrément abandonné ma foi. Il y a d'autres qui ont abandonné juste certains principes, certaines convictions. Il y a des personnes qui autrefois croyaient au don de l'esprit, par exemple, et aux manifestations de l'esprit, qu'aujourd'hui, on peut quand même prier en autre langue et avoir les manifestations des dons de puissance, dons de révélation, et etc. Mais il y a des gens que, à cause de certains facteurs, ils ont abandonné leur foi dans ce domaine. Il y a d'autres qui, autrefois, ils croyaient à la guérison, mais aujourd'hui, ils ne croient plus à ça. Il y a plein de choses. Il y a des gens qui croyaient autrefois que Jésus est le seul chemin. Ils ne croient plus à ça. Savez-vous quoi? Votre foi est précieuse. La Bible dit que votre foi est précieuse. Et il faut protéger votre foi. Il faut protéger vos croyances. Il faut protéger votre confiance en Dieu. Comme on a besoin de protéger sa confiance dans notre épouse, ou dans notre mari, ou dans nos amis, ou dans notre fils. On a besoin de protéger notre foi. Il y a un autre verset qui dit, Luc 22, verset 31, dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan, et c'est Jésus qui parle, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, pourquoi? Afin que ta foi ne défaille pas. Je pense que le message aujourd'hui est sérieux. Nous vivons dans un temps critique, dans les derniers jours. Nous sommes les croyants, les chrétiens, nous avons une foi en Dieu, n'est-ce pas? Notre foi peut être mesurée, augmentée, mais il faut la protéger aussi. Ici, on voit Jésus a averti Pierre, Satan, il va faire tout pour attaquer ta foi. Qu'est-ce que Satan attaque? Il attaque notre foi. Il attaque notre confiance en Dieu. N'est-ce pas qu'est-ce qu'il a dit fait avec Ève dans le jardin? Dieu a-t-il vraiment dit? Il a mis en question la parole de Dieu. Dieu n'est pas vraiment digne de confiance. Dieu sait que le jour que tu manges de ce fruit, que tes yeux seront ouverts et que tu seras comme lui, tu seras comme un Dieu. Et c'est pourquoi Dieu ne veut pas avoir de la compétition. Donc, Satan commence à mettre en doute. Il met les points d'interrogation. Il essaie d'attaquer la confiance que nous avons dans le caractère de Dieu. Et ça, c'est la façon que Satan travaille encore aujourd'hui. Dieu a-t-il vraiment dit que par ses mains précieuses, tu as été guéri? Je pense qu'il voulait dire juste spirituellement que tu as été guéri. C'est juste ça, n'est-ce pas? Donc, protégeons notre foi. Sachons que l'ennemi va faire tout pour mettre en question la parole de Dieu. Et il va attaquer notre confiance en lui. Amen. Alléluia. Donc, faisons attention. Mais j'aime ça parce que, et toi, quand tu seras converti, affermi. À quoi? À fermi tes frères. Demeurez ferme dans la foi. Demeurez ferme dans la foi. On a besoin d'être affermi dans notre foi. Et si vous êtes là, vous dites, oh, mais moi, je suis chrétien depuis longtemps. Peu importe. Nous avons tous besoin d'être affermis dans notre foi. On va voir tantôt, la foi est comme un muscle. Et un muscle peut être ferme ou un muscle peut devenir mou. Ouais, c'est mou ou molle? Mou. Mais si le muscle est ferme ou mou, ça dépend de vous. C'est vrai, n'est-ce pas? Si je fais rien avec mes muscles, ça va devenir mou. On a un dicton en anglais, on dit « Use it or lose it ». Utilise-le ou perds-le. Si tu ne l'utilises pas, tu vas le perdre. Et c'est comme ça, quelqu'un qui connaît une langue et qui s'absente d'un certain pays ou en certaine culture pendant des longues années, il peut avoir de la difficulté à parler une langue qu'il parlait autrefois couramment. Moi, je suis anglophone de... Je sais, c'est une surprise pour vous. Anglophone de naissance. Et je parle toujours très bien en anglais. Sauf que j'avoue que je cherche mes mots en anglais. Et en français aussi, des fois. Donc, ça, c'est bon. Pourquoi? Parce que j'utilise moins la langue anglaise. C'est pas comme avant. Avant, j'écrivais. J'étais journaliste. C'est moi qui rédigeais les... textes et corriger les textes. J'étais rédacteur en chef de mon journal à l'école secondaire et c'était une chose que j'aimais faire. Mais là, des fois, je me pose des questions. Comment est-ce qu'on était en anglais? Parce que j'ai une tendance à le faire en français. Donc, mais savez-vous que la foi, c'est la même chose? On n'utilise pas notre foi et notre foi devient molle. Je sais qu'autrefois, j'avais confiance pour ça, mais je suis plus sûr de qu'est-ce que je crois. Je suis confus. Vous savez pas de quoi je parle, non? Regardons 1 Timothée 6, 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Donc, on peut abandonner la foi. Notre foi peut être attaquée. Et ici, on voit qu'on peut s'éloigner de la foi aussi. On l'abandonne pas tout à fait. Quelqu'un qui abandonne la foi, c'est volontaire. Je veux plus faire ça. Je l'abandonne. C'est peut-être un processus qui c'est subtil et la tentation est subtile et au fur et à mesure la personne est tentée finalement décide d'abandonner. Mais quand on s'éloigne de la foi, oui c'est volontaire, mais c'est encore plus subtil des fois. Quelqu'un qui aime Dieu, mais qui commence à aimer en même temps l'argent. Là, tout d'un coup, ses affections sont divisées. Il aime Dieu, oui, mais j'aime l'argent, il pense aimer l'argent plus qu'il aime Dieu. Comprends? Vous comprenez? Et comme ça, il s'éloigne de la foi. Il s'éloigne de la confiance qu'il a en Dieu. C'est pas juste l'amour de l'argent. Mettez votre affection n'importe où, sauf en Dieu ou à la bonne place, et vous allez finir par vous éloigner. Amen. Donc, on a besoin de protéger notre foi. Et on continue. Il dit ici, en Timothée 1:19, « En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. » Ils ont perdu une bonne conscience. Et ils ont fait quoi? Naufrage par rapport à leur foi. Donc, on voit plusieurs choses qui peuvent arriver à votre foi. C'est pas, le but aujourd'hui, c'est pas de vous faire peur, mais c'est de vous réveiller. Si vous voulez demeurer ferme dans la foi, il faut que vous soyez conscient que vous avez quand même la capacité d'abandonner votre foi d'être attaqué dans votre foi, de vous éloigner de votre foi, n'est-ce pas? Et selon ce verset ici, vous pouvez même faire naufrage par rapport à votre foi. Crash. Désastre. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut aller jusqu'au bout. Et on parle d'une stratégie pour réussir sa vie. Et pour réussir la vie, il faut avoir la foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, n'est-ce pas? Et puis finalement, regardons Colossiens 1, 21 qui dit ceci. Si du moins vous demeurez fondé, et quoi? Inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Donc là, on voit que c'est conditionnel. C'est pas tout le monde qui va automatiquement demeurer fondé et inébranlable dans la foi. Nous avons besoin de prendre une décision. C'est pourquoi Paul a donné l'exhortation, veillez, demeurez ferme dans la foi. Je prends une décision de ne pas laisser mes muscles spirituel devenir mou. Je veux faire tout ce qui est nécessaire pour rester ferme, en forme, spirituellement. Je veux faire confiance en Dieu dans tous les domaines de ma vie et je veux pas tout simplement me contenter d'avoir un peu de foi, mais je veux même augmenter ma foi, faire grandir ma foi pour arriver à la place où j'ai une grande foi et une grande confiance en Dieu dans tous les domaines de ma vie. C'est ça que Dieu veut pour nous, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà le OMC. Juste 4 points que je veux souligner pour vous envoyer avec quelques instructions pratiques aujourd'hui. On voit en Actes chapitre 16, verset 5, que les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre jour en jour. Savez-vous quoi? Le résultat du message aujourd'hui, si vous mettez ce message en pratique, cette église va grandir. Parce que nous allons devenir un peuple ferme dans ses croyances, affermi dans ses convictions. Nous allons avoir être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. On va pouvoir posséder en avance les choses que Dieu a promis et nous aurons une ferme confiance en ce que nous espérons. Et ça, c'est attirant. Et en plus, c'est pas juste attirant. Ça va amener en manifestation, la volonté du ciel va arriver sur la terre. Et quand vous marchez dans la foi, et quand nous marchons dans la foi, laisse-moi vous dire, les gens vont voir la manifestation de la gloire de Dieu. Et l'Église va augmenter en nombre de jour en jour. Donc, comment est-ce qu'on peut faire cela? 4 choses simples. On peut faire. Et si on fait ces 4 choses régulièrement, on ne va jamais abandonner notre foi. On serait prêt à résister le diable s'il vient attaquer notre foi. On va pas avoir les affections diverties pour s'éloigner de la foi. Amen. On va rester inébranlable dans notre foi. 4 choses simples. C'est quoi la première chose? Numéro 1, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous. Vous savez quoi? S'il y a un problème, et on sait qu'on est malade ou peut-être malade et on veut être en santé, première chose qu'on va faire, on va passer un examen, n'est-ce pas? Il faut trouver le bobo. Il faut trouver le problème. Il faut voir la place où on est faible. Si je veux être en forme physiquement et je veux m'entraîner, il faut que, des fois, malheureusement, il faut qu'on se regarde dans le miroir et il faut s'examiner et dire, bon, qu'est-ce que j'ai besoin de travailler? Est-ce qu'il y a des muscles qui ont été négligés dernièrement, qu'on a besoin de travailler un peu. Mais on fait cet examen spirituel de la même façon. On se regarde spirituellement. On se pose les questions. Aujourd'hui, pas hier, pas la semaine passée, pas 1980, pas 1935. Il y a trop de chrétiens qui parlent des vieux bons temps dans l'esprit. Oh, je m'en souviens. Quand j'étais né de nouveau, au début, je m'en souviens, oh, on avait des réunions de prière extraordinaires, oh, quand on priait, les cieux s'ouvraient, oh, on faisait des grandes choses, on voyait des miracles, des signes, des prodiges, mais ça c'est tout beau, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, dans votre vie chrétienne, où est-ce que vous êtes rendu? Examinez-vous pour voir si vous êtes vraiment dans la foi. Et savez-vous qu'est-ce qui se passe souvent? On commence à avoir les victoires Et nos victoires nous rendent tellement confortables qu'on oublie Dieu. Quelqu'un qui a des luttes dans les finances, exemple, et à chaque jour, c'est vraiment un combat de la foi, juste faire confiance à Dieu pour avoir du pain à manger. Et il va croire, il va prier, il va réclamer les promesses de Dieu. Mais quand la personne est bénie, c'est ça que Dieu a dit à son peuple. Et quand vous serez rentrés dans la terre promise, faites attention. Hein? Ne pense pas que c'est votre main, votre force qui vous a acquis ces richesses, mais c'est moi qui vous a donné le pouvoir de les accueillir. Donc, savez-vous que des fois, c'est juste plus facile de, au lieu de faire confiance en Dieu, faire confiance au gouvernement, faire confiance, oh, mais maintenant j'ai un bon emploi, vous avez confiance dans votre employeur, votre chèque de paye ou quoi que ce soit. Faites pas confiance en ça, faites confiance en Dieu. Des fois, c'est juste trop facile. Ah, oh, j'ai des maux de tête. Vous savez que vous pouvez réclamer la guérison, mais c'est juste plus facile de... Bon, ben, c'est juste une rhume, ça va passer. Ah, oh, je vais toffer 5 jours, 7 jours, et ça va passer. Correct, si vous voulez. Mais autrefois, il y a 10 ans, vous n'aurez pas fait ça. Vous aurez dit, non, au nom de Jésus, je refuse cela, au nom de Jésus. Seigneur, vous aurez pris le temps de méditer la parole de Dieu, de réclamer les promesses de Dieu, et de mettre votre foi en action. Donc, examinez-vous. Est-ce que vous êtes dans la foi? Est-ce que vous avez confiance en Dieu? Savez-vous, première chose, quand on fait un examen, quand on arrive à l'urgence, et tu vois l'infirmière, après, ils font le triage et tout, mais première chose, quand tu vois l'infirmière qui fait le triage, c'est quoi la première fois, chose qu'elle va faire d'habitude? Elle va prendre la température. Ouvre ta bouche, mets ça sous ta langue. Savez-vous quoi? Une bonne façon de vous examiner pour voir si vous êtes dans la foi, ouvrez la bouche. Examinez qu'est-ce qui sort de la bouche. Qu'est-ce que vous faites avec votre langue? Si de votre bouche, vous parlez toujours peur, crainte, inquiétude, doute, si c'est ça qui sort de votre bouche, pourquoi est-ce que ça sort de votre bouche? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voulez-vous savoir si vous êtes dans la foi? C'est pas la seule chose. Mais une première étape, c'est pas la seule, parce qu'elle n'arrête pas là. Bon, ok, bon, tu ne fais pas de la fièvre, allez-y à la maison. Non, ils vont aussi examiner, ils vont prendre la pression, ils vont faire un examen complet, éventuellement, on espère. Vous avez besoin de faire la même chose, mais commencez avec la bouche. Est-ce que ma bouche déclare les paroles de la foi? Quand je m'entends parler, est-ce que mes paroles sont remplies de confiance ou remplies de peur? Bonne question, n'est-ce pas? Alléluia! Oh, c'est un peu silencieux, parce que les gens sont en train de faire l'examen, n'est-ce pas? Et personne n'aime aller chez le médecin. Mais ça, c'est la première étape. C'est biblique, 2 Corinthiens 13, 5, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. C'est pas à vous d'examiner votre frère, votre soeur, votre épouse, votre mari. Examinez-vous vous-même. Trop de gens qui vont dire, oh, mais tu sais, mon mari, si seulement il avait plus de foi, ça irait mieux. Commencez avec vous, mesdames et messieurs, et ça va bien aller. Deuxième chose, nourrissez votre foi avec la parole de Dieu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si vous n'avez pas de la foi dans un domaine, écoutez ce que dit la Bible là-dessus, et la foi va venir. Tout le monde dit, la foi va venir. Marc 4, 24, Jésus a dit, il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Si vous êtes constamment bombardé avec les pensées négatives et vous écoutez seulement les choses négatives, si vous fréquentez des personnes qui n'ont pas de foi ou peu de foi, vous allez peut-être, si vous ne faites pas attention, vous allez vous laisser infecter par leurs paroles qui manquent de foi aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas s'enlever de ce monde, mais on peut s'isoler. Pas s'isoler dans le sens que j'ai plus de contact, mais c'est comme ici, on est dans un bâtiment où il fait froid, mais pas tellement froid aujourd'hui, mais il peut faire très froid en dehors, mais à l'intérieur, c'est pas si pire. Pourquoi? Parce qu'on a de l'isolation. On ne s'enlève pas. On n'a pas besoin de déménager en Floride pour avoir chaud, vous êtes d'accord? Même si vous aimeriez. On a besoin d'une bonne isolation. Et ça, c'est la même chose. Votre foi, c'est votre isolation spirituelle. Et plus vous entendez la parole de Dieu et les bonnes choses, plus vous serez capable d'aller dans une atmosphère où il fait fret même. Pas juste froid, mais il fait fret dehors. N'est-ce pas? Et l'atmosphère n'est pas agréable au travail. Peut-être là où vous travaillez, tout le monde sac ou tout le monde parle en négatif ou parle de ceci et cela. Mais écoute, soyez bien isolé avec la parole de Dieu. Amen? Et de deux, quand c'est en votre pouvoir de choisir ceux que vous allez fréquenter, choisissez, parce que vous ne pouvez pas choisir vos collègues au travail, vous êtes d'accord? Vous ne pouvez pas choisir votre patron non plus, jusqu'à un certain point. Et vous pouvez choisir vos amis. Vous pouvez choisir les personnes que vous fréquentez. Vous pouvez choisir votre église. Vous pouvez choisir les personnes qui sont remplies de la foi et qui vont vous infecter avec leur foi. Amen? Donc, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Nourrissez votre foi avec la parole de Dieu. Troisième chose, maintenez votre foi en gardant une conscience qui est pure. Ça, c'est une chose qu'on ne dit pas assez souvent. Mais on a vu dans la parole qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas gardé une bonne conscience et ils ont fait naufrage par rapport à leur foi. Et ici, dans le verset 1 Timothée 3:9, il dit qu'on doit conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. En Jean 3:20, il dit, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Et voilà qu'est-ce que je vais dire. Si vous choisissez volontairement de vivre dans le péché ou désobéir, à la voix de Dieu, votre conscience va vous condamner. C'est pas Dieu qui vous condamne. Il attend que vous vous repentiez, par exemple. Il veut la repentance. Mais si vous choisissez de juste négliger ou pas écouter la voix de Dieu, pas faire ce que vous savez la parole de Dieu dit, ça va détruire votre confiance en Dieu. Je vais dire quelque chose de délicat, mais c'est vrai, parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Vous savez qu'ils ont fait les études et les sondages dans les familles chrétiennes, où il y avait des adolescents qui ont grandi dans des foyers chrétiens, qui ont connu la parole de Dieu, qui ont connu les principes de la parole. OK? Et c'est délicat que je vais dire, mais c'est quand même vrai. C'est pas dans un esprit de condamnation du tout. Mais c'est juste pour nous réveiller. Mais qu'est-ce qu'ils ont découvert? Que si jamais ces jeunes, et c'était encore pire chez les jeunes filles, si une jeune fille ou un jeune homme faisait des compromises par rapport à ses convictions, surtout dans le domaine sexuel, exemple, un jeune homme, une jeune femme qui savait que la relation sexuelle est réservée pour le mariage, quand cette personne décide de ne pas respecter sa conscience, ces personnes ont presque toujours fait, et souvent ils ont fait des crises de foi aussi. Parce que ils savaient qu'est-ce qu'ils devraient faire? Ils n'ont pas fait qu'est-ce qu'ils devraient faire, mais c'est comme une crise de foi. Ils commencent tout d'un coup, la confusion entre, et ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils croient. Est-ce que Dieu est pour vrai? Est-ce que j'y crois? Je ne crois plus. Et c'est quelque chose, il y a un lien, un vrai lien qu'ils ont découvert entre les crises de foi et les compromis au niveau des convictions, surtout dans le domaine sexuel. N'est-ce pas intéressant? Et qu'est-ce que cela me montre? C'est que nous aussi, nous avons tous besoin de faire nos efforts pour garder une conscience qui est pure. Parce que quand notre conscience est pure, et voici la bonne nouvelle, parce qu'on sait que dans notre société, là, c'est tellement délicat, même qu'est-ce que je viens de décrire, parce qu'on sait que presque tous les ados aujourd'hui, à partir de 14-15 ans, ils commencent à être actifs sexuellement. C'est, c'est vraiment l'exception. L'exception. Donc, quand on parle à notre société, dire une chose comme je viens de dire là, ils vont penser que je suis tombé sur ma tête. Parce que pour eux, c'est comme normal. Mais c'est pas normal selon la parole de Dieu. Dieu a un plan, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que on a besoin, et si c'est le cas, si pour toutes ces personnes qui ont déjà fait des compromis de quelque chose, voici la bonne nouvelle, le sang de Jésus est là pour nous laver, nous purifier. Et il met dans un mer d'oubli tous les péchés de nos passés, n'est-ce pas? Peu importe que ce soit un péché d'inquiétude, de consommation, d'impureté, quoi que ce soit, Jésus nous aime, n'est-ce pas? Donc, il y a de l'espoir pour tout le monde. Mais pour les chrétiens, ceux qui savent mieux, on a besoin de garder notre conscience pure devant Dieu. Pas juste dans le domaine sexuel, mais dans tous les domaines. Est-ce que vous êtes honnête? Hein? Quand c'est le temps de faire les impôts, est-ce que vous dites la vérité? Est-ce que vous réclamez ce que vous devez? Est-ce que vous donnez à César ce qui est à César? Ouh, là, j'ai pas plein fait de dire ça, mais je m'en souviens, je viens de me rendre compte que c'est le mois de la fin février, c'est le temps des impôts qui s'en viennent. Mais savez-vous quoi? Garder une bonne conscience, ça va aider votre foi. Obéir à Dieu, ça va aider votre foi. Il y a une fine ligne entre eux, mériter la faveur de Dieu, parce que ça, vous pouvez jamais faire. Et avoir une conscience pure et nette où vous savez que, bon, à chaque fois que Dieu vous parle, vous êtes à l'écoute, vous êtes capable d'entendre, et dans la mesure du possible, avec son aide, avec sa grâce, vous obéissez. Amen? Donc, numéro 4. Alléluia. Exercez votre foi en la mettant à l'œuvre. Donc, examinez vous-même, nourrissez votre foi avec la parole, maintenez votre foi en gardant une conscience qui est pure, et exercez votre foi en la mettant à l'œuvre. Comme on a déjà dit, la foi est comme un muscle. Si vous l'utilisez, ça va devenir ferme. Si vous ne l'utilisez pas, ça va devenir mou. En effet, de même que le corps sans le souffle de vie est mort, de même la foi sans les actes est morte. Avez-vous une grande foi? Petite foi? Pas de foi? Bonne nouvelle, la foi vient et la foi peut être augmentée. Mais la seule façon que la foi vienne de ce qu'on entend. Regardez-moi, la foi vient de ce qu'on entend. Passez plus du temps dans la parole, la foi va venir. Entendez la bonne chose, la foi va venir. Mais si la foi va devenir grande et ferme, il faut que la foi soit mise en action. Il faut agir. Accueillez Jacques 1, 21, dans un esprit humble et docile, la parole implantée en vous, car elle a le pouvoir de vous conduire au salut. Seulement, ne vous bornez pas à l'écouter. Traduisez-la en acte, sans quoi vous risquez de vous faire illusion sur vous-même. Stratégie pour une vie réussie. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Demeurez ferme dans la foi. Donc cette semaine, prenez le temps de faire une auto-examination de votre foi. Est-ce que j'ai confiance en Dieu? Est-ce que j'ai une petite foi, une grande foi? Et regardez tous les domaines de votre vie, au niveau de votre famille, vos finances, votre santé, votre vie spirituelle. Peu importe, faites le bilan spirituel et commencez à nourrir votre foi là où vous êtes faible. Si vous voyez que, bon, j'ai vraiment une grande foi dans tous ces domaines, mais dans sept domaines de la guérison, je suis faible, alors nourrissez votre foi avec les paroles qui parlent spécifiquement de la guérison. Amen. Gardez votre conscience pure et commencez à mettre votre foi en action. Donc, Tania va venir et on va se lever debout, on va prier ce matin. Alléluia. Demeurez ferme dans la foi. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Le message est simple ce matin. Mais soyez pas un auditeur oublieux. Soyez quelqu'un qui met la parole en pratique. Moi, je veux être brutalement honnête avec moi-même cette semaine. Je vais faire cela aussi. J'ai déjà commencé, mais je vais continuer à m'examiner. Seigneur, est-ce que j'ai perdu un peu confiance dans certains domaines? Si oui, je veux booster ma confiance là. Je veux nourrir ma foi là. Je veux avoir une grande foi ferme. On va prier ceci ensemble. Merci, Seigneur. On va le dire avec conviction, ok? Merci Seigneur que je suis ton enfant et merci que la foi vienne. Seigneur, je prends une décision de m'examiner moi-même pour voir si je suis dans la foi. Je prends une décision de nourrir les domaines de ma vie où je manque la confiance. Au nom de Jésus, avec ton aide, je vais garder une conscience pure. Et Seigneur, je vais prendre une décision de mettre la parole en action. Je vais devenir et rester ferme dans la foi, au nom de Jésus. Amen. Juste avant d'aller, vous savez quoi? À chaque dimanche, je donne cette invitation. Peut-être vous êtes... Écoutez cette prière que nous avons priée. Vous dites, mais moi, je ne suis pas sûr que je peux dire cela avec confiance. Examinez-vous vous-même aussi pour voir si vous êtes dans la foi. Est-ce que vous savez? Est-ce que je veux savoir que, avant qu'on quitte aujourd'hui, je veux juste être assuré, rassuré même, que tout le monde, sans exception, qui est dans cette salle, a déjà donné son cœur à Jésus-Christ. Que vous êtes vraiment devenu, comme la Bible dit, en chrétien, en enfant de Dieu. Comme Jésus a dit que vous êtes passé de la mort à la vie spirituelle, né de nouveau par son Esprit Saint. Vous savez que ce n'est pas une question de juste faire partie de notre Église, de la vie comblée. La seule chose qui compte, c'est de faire partie de la famille de Dieu. Donc ce matin, je vous pose la question. Examinez votre cœur. Avez-vous confiance, sans aucune doute, que si vous quittez cette bâtisse aujourd'hui et pour une raison quelconque, votre cœur arrête de battre et vous tombez mort. Savez-vous sans aucune doute que vous irez au ciel pour passer l'éternité avec Dieu? Si vous dites « j'espère que oui », ce n'est pas suffisant. La foi, c'est la ferme confiance en ce qu'on espère. Cette manière de la posséder déjà par en avance, c'est d'être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Vous dites, mais je suis une bonne personne, j'essaie d'être gentil, je lis la Bible, je vais à l'église des fois. Toutes ces réponses, c'est beau, mais c'est pas ça qui peut faire de vous une nouvelle création. Ou faire de vous un vrai chrétien. Pas plus que, comme je dis souvent, passer la nuit chez Tim Hortons, vous n'allez pas devenir une veine non plus. Aller chez McDo, vous n'allez pas devenir un hamburger. Aller à l'église, vous n'allez pas devenir un chrétien. Examinez votre cœur. Posez la question. Seigneur, est-ce que je suis prêt à te rencontrer? Sinon, j'ai une bonne nouvelle. Le salut, c'est un don gratuit. Vous ne pouvez pas le mériter. Dieu a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et la Bible dit tout simplement que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Qu'est-ce que quelqu'un ici ce matin qui veut donner sa vie à Jésus? Jésus dit que si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. Je vais compter à trois, je vais taper ma main. Dès que je tape ma main, si tu es là et tu veux donner ta vie à Jésus, juste lève ta main haut dans l'air. Qui veut donner sa vie à Jésus ce matin? Un, deux, trois. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Juste lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Peut-être, juste, est-ce qu'il y a quelqu'un? Juste lever la main haut dans l'air. À une seconde. Peut-être que tout le monde ici l'a déjà fait. Ça, c'est entre toi et Dieu. Je ne sais pas. Mais Seigneur, je prie ce matin que tous ceux et celles qui sont ici et qui entendent ma voix, que s'il y a par chance une ou deux personnes qui n'a pas encore ouvert son cœur à toi, qu'avant que la journée se termine aujourd'hui, qu'ils vont le faire. Mais Seigneur, je te remercie que nous allons continuer, Seigneur, chacun de nous, à mettre cette parole en pratique, d'affirmer notre foi, demeurer ferme dans notre foi. On ne veut pas se tromper soi-même, mais on veut vraiment s'examiner cette semaine et voir si on peut faire du confiance ou si on a besoin d'augmenter notre confiance dans quelques domaines. Priez encore avec moi. Merci Père, que nous allons être fortifiés dans notre foi et que cette Église va augmenter en nombre de jour en jour et que ma vie va être réussie. Parce que je suis ta stratégie, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et on se verra mercredi soir, 19h. Je vous aime, le Seigneur soit avec vous toute la semaine et à mercredi soir. On va chanter un dernier chant.